Internet et le nombre d'informations qu'on peut avoir à la portée de nos doigts est juste complètement impressionnante. Et ça a un côté génial, non? Par exemple, si vous voulez grandir dans un domaine de votre vie, vous n'avez qu'à taper dans un moteur de recherche, on taira le nom, comment développer ses compétences? Comment développer ses compétences professionnelles? Ses compétences relationnelles, techniques, sociales, commerciales, en anglais, en communication, en jardinage, en couture, en cuisine, en management, en bricolage, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations et en plus des avis contradictoires qu'on ne sait parfois plus où trouver de réponses. Et surtout, qui vraiment écouter? Qu'en est-il pour la vie d'un disciple de Jésus? Est-ce que vous voulez grandir dans votre vie de disciple? S'il y avait des clés, des conseils pour développer votre vie de disciple, est-ce que vous seriez intéressé de les entendre et de les connaître? Alors ce matin, je vous propose d'aller directement à la seule source sûre d'information à ce sujet, la seule qui fasse vraiment autorité dans la vie d'un disciple de Jésus, c'est la Bible, la parole inspirée de Dieu. Et on va voir ce matin la vie de disciple dans cette série, suivre Jésus et aider d'autres à le suivre en parcourant un peu la vie de l'apôtre Pierre. Un des derniers textes qu'il a écrit, grandir en maturité spirituelle de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Comment développer notre vie de disciple? Comment grandir en maturité spirituelle? Et alors qu'on regarde ce texte de Pierre, on va voir qu'il nous partage trois vérités fondamentales à ne pas oublier pour grandir en maturité spirituelle. Je vous propose de tourner vos Bibles, si vous en avez une, dans le Nouveau Testament, c'est vers la fin de la Bible, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Et avant de lire ce texte, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons nous placer à son écoute, à ton écoute. Parle-nous ce matin, s'il te plaît. Touche nos cœurs. On veut te connaître davantage et que nos vies soient changées par ta divine puissance. On prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble ce texte. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 15. 3 à 11. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Amen. Ce texte que nous venons de lire se trouve dans la deuxième et la dernière épître, lettre de l'apôtre Pierre. Pierre est à la fin de sa vie et il sait qu'il va bientôt mourir parce que le Seigneur Jésus le lui avait révélé dans l'évangile de Jean. Il veut s'assurer d'une chose avant son départ, c'est que les chrétiens, les disciples de Jésus, puissent continuer à grandir dans leur foi, grandir dans leur attachement à Jésus, grandir dans leur maturité spirituelle, pour qu'une fois que Pierre, l'apôtre, soit mort, ils puissent continuer à le vivre jusqu'au retour de Jésus. Ça nous inclut, nous aussi, dans ces exhortations. Mais le problème à l'époque, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires. Il y a des fake news qui circulent dans l'Église. Certains faux enseignants, reconnus certainement comme pasteurs dans certaines églises, enseignaient des mensonges. Ils enseignaient que Jésus ne reviendrait pas, que Dieu tardait dans la réalisation de ses promesses et donc qu'elle n'était peut-être pas si sûre que cela. Et ils encourageaient les chrétiens à se laisser aller, à accepter les compromis moraux et théologiques de leur vie. En particulier, ils citent Pierre dans cet épître, l'amour de l'argent, une sexualité débridée et immorale, et aussi tout cela sous un vernis d'orgueil religieux. Ils se vantaient en disant « Nous avons la vraie liberté !» alors qu'en fait, ils étaient esclaves du péché qui dominait sur eux. Ils enseignaient que le pardon de l'Évangile donnait l'opportunité pour vivre une vie dans le péché. Et ils remettaient en cause même le retour de Christ. Pierre écrit donc cette lettre aux chrétiens pour les mettre en garde avec passion, quitte à être un peu polémique même par moments, pour pouvoir contrer ces fausses informations sur la vie du disciple. Et il commence cet épître en partageant et en rappelant trois vérités fondamentales à ne pas oublier pour grandir en maturité spirituelle et ressembler toujours davantage à Jésus. Vous êtes prêts pour entendre ces vérités? On va parcourir ce texte ensemble. La première, c'est que la grâce de Dieu est suffisante. Sa grâce est suffisante. Relisons. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Finalement, la vie d'un disciple. Donc Dieu ne nous a pas donné une partie seulement de ce qu'il faudrait, pas 50% de ce qu'il faudrait, et le reste, on devrait le trouver, le chercher par nous-mêmes. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre une vie spirituelle. Il a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie attachée à lui, une vie qui lui plaise, une vie qui lui soit agréable, une vie d'un disciple qui grandit dans sa ressemblance à Jésus. Sa divine puissance, nous dit ce texte, est la source pour une vie attachée à Dieu. Et quand Pierre parle ici de sa divine puissance au début de ce passage, il s'agit bien de la puissance de Dieu manifestée par Jésus-Christ. Vous le trouvez dans le verset précédent, dans son introduction, quand il présente la grâce et la paix qui sont données en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui seul a le pouvoir, la puissance de nous arracher à une vie loin de Dieu pour nous racheter, nous purifier, nous pardonner, changer nos cœurs, nous ramener à Dieu pour qu'on puisse vivre cette vie qui lui plaise, une vie de disciple. Écoutez bien, ce que nous ne pouvions pas faire par nos propres efforts et nos propres forces, Dieu l'a fait par sa divine puissance. Par sa divine puissance. C'est le miracle de l'Évangile. Comme Paul le rappelle aux Romains, l'Évangile est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Oui, sa grâce est pleinement suffisante pour grandir en maturité spirituelle. Encore faudrait-il savoir comment on accède à cette puissance de Dieu. Regardons la suite du texte. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La puissance de la grâce de Dieu est donc accessible par la connaissance. Attention, il ne s'agit pas ici purement d'une connaissance qui soit intellectuelle ou même d'une connaissance qui soit un peu mystique, vous savez, où on essaie de passer d'un niveau à l'autre, de passer des diplômes spirituels pour passer d'un niveau à l'autre. Non, ici, il s'agit de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On peut avoir accès à cette divine puissance qui change nos vies par la connaissance d'une personne. C'est là l'essence de tout le christianisme. On peut accéder à cette puissance qui change nos vies par la connaissance d'une personne, Jésus-Christ, de celui qui nous a appelés. Car en Jésus-Christ, Dieu nous appelle. Il nous lance une invitation à le connaître personnellement. Et ce n'est pas une petite invitation. Pierre veut qu'on se réveille. Il utilise ces termes-là. Qu'on reste éveillé si on a l'impression que c'est une petite invitation. Est-ce que peut-être dans vos vies, ça vous est déjà arrivé d'avoir une invitation pour laquelle vous étiez complètement surpris que ça tombe sur vous? Ça vous est déjà arrivé? Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'ai reçu une invitation de dingue. Le genre d'invitation, quand vous lisez, je l'ai amenée avec vous en plus, pour vous la montrer. Quand vous la lisez, vous y reprenez à plusieurs fois, vous vérifiez si c'est bien votre adresse qui est dessus, si c'est vraiment vous le destinataire, si c'est votre nom qui est dessus, si c'est pas justement une fake news, vous savez, parce qu'on reçoit souvent ce genre d'informations. Hein. Vous avez gagné le dernier téléphone. Oui, non, on a gagné le dernier virus informatique, mais rien de plus. Imaginez si je vous disais que cette invitation était plus grande et précieuse que, je sais pas, que si vous m'offriez 2 semaines de vacances dans l'endroit de mes rêves. C'est pas mal déjà, hein, non? Imaginez que cette invitation soit plus précieuse que si je pouvais faire, allez, une journée dans ma vie, ce que j'aurais toujours rêvé. J'en sais rien, moi, peut-être aller gagner une médaille aux Jeux Olympiques ou faire un code informatique pour révolutionner le monde de la médecine. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut rêver. Imaginez que cette invitation, elle est plus que cela. Plus même peut-être que d'avoir enfin le travail de mes rêves ou de gagner, allez, disons, 1 million d'euros. C'est pas mal, 1 million d'euros. Oui, c'est pas mal. Je vais vous lire cette invitation si vous voulez. Vous le voulez ou pas? Ça me tient à cœur, donc je ne vais pas la mettre de côté. Si vous n'êtes pas trop dedans, on passe au point suivant. Alors, je vais vous la lire. Je vérifie encore, ça m'est adressé. Vous êtes prêts? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Signé Dieu, Apocalypse 3, verset 20. Ça m'est adressé? Ça vous est adressé? Alors on est déçu, non? À chaque fois, je l'ai fait dans des camps de jeunes, des fois, puis, ah, je savais que c'était un truc de prédicateur. Je l'ai senti quand t'as dit que c'était plus que les vacances. Là, je dis, il y a un truc de louche. Sérieusement? Sérieusement? On aurait exulté de joie pour le million d'euros? Je sais hein, ce que ça peut faire des fois d'avoir la CAF qui reverse un peu d'argent ou autre, et ça fait plaisir. Mais ici, Pierre commence cette lettre pour qu'on n'oublie pas celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force à le connaître. Jésus-Christ nous a lancé cette invitation. Si vous ne l'avez pas reçue d'ailleurs, elle tient toujours. Et vous pouvez l'accepter par la foi et le connaître. Mais si vous l'avez reçue, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. En Christ, Dieu nous invite à le connaître personnellement. Lui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Ce n'est pas juste des petits mots ici quand il dit « par sa gloire ». C'est plus que la réputation de Dieu, sa gloire. C'est la présence majestueuse de Dieu qui éblouit tellement toutes choses que les autres choses semblent tellement pâles à côté. Pierre, dans la fin du chapitre, parle aux chrétiens de ce qu'il a vécu quand il était sur la montagne avec Jacques et Jean. Et que là, sur le mont de la Transfiguration, ils ont vu Jésus, sa gloire et la voix du Père qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, en qui est toute mon approbation. » C'est ce Sauveur glorieux qui nous appelle. C'est par sa gloire manifestée à la croix et sa vertu, par son obéissance pendant sa vie et sur la croix, qu'il nous sauve. La puissance de la grâce de Dieu est accessible par la connaissance de celui qui nous a appelés. Cela veut dire que lorsque nous répondons à l'invitation de Dieu, son appel sur nos vies, pour placer notre foi en Jésus, on peut le connaître et avoir accès à cette puissance qui change nos vies. Il s'agit bien d'une connaissance ici, au moyen de la connaissance de Dieu, une connaissance qui est intime, une connaissance qui est personnelle, une connaissance qui est profonde. Ce n'est pas simplement une invitation à connaître des choses sur Dieu, mais à le connaître lui, et que les choses qu'on connaît sur lui viennent nourrir notre relation avec lui. Imaginez qu'il y ait une centrale d'énergie qui soit intarissable, une énergie verte en plus. Une énergie sur laquelle on puisse venir puiser la source pour vivre une vie transformée. Dieu, sa divine puissance, est accessible par la connaissance de Jésus-Christ. Comment le connaître mieux ? Pierre continue dans ce verset. Celle-ci nous assure de sa part, donc sa gloire et sa vertu. Sa vertu, c'est peut-être son excellence morale, le caractère de Jésus. Nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sa gloire et sa vertu nous assurent donc les plus grandes et les plus précieuses promesses. On a cette centrale d'énergie intarissable. C'est Dieu, par la connaissance de Dieu, on sait qu'il y a cette source pour être transformé. Ces promesses sont-elles les câbles qui viennent nous alimenter pour mieux le connaître et être transformé. Ces promesses ne sont pas des fausses promesses, comme on peut tellement en entendre. Fais ceci et tu seras heureux. Travaille plus et enfin tu auras le bonheur. Non, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est sa gloire et sa vertu nous assurent ces promesses-là. Elles sont sûres et certaines, même, écoutez bien, même quand il semble qu'elles tardent à s'accomplir. C'est ce que les faux enseignants disaient. Elles ne sont pas assurées. Pierre commence en disant, souvenez-vous, n'oubliez pas, ces promesses sont sûres. On ne sait pas forcément exactement ici de quelles promesses Pierre parle, mais certainement, on sait qu'il fait référence à des promesses de l'Ancien Testament qui promettaient justement la venue du Sauveur, du Messie, celui par qui on allait être sauvé, justement connaître Dieu de manière intime et profonde, qui vienne changer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair, qui soient sensibles à lui. La promesse certainement aussi du Saint-Esprit, qui allait vivre en chacun des croyants pour le connaître de manière intime. Ces promesses sont assurées. Et ces promesses nous sont données afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de devenir comme Dieu, comme des dieux un peu, participant de la nature divine? Les faux enseignants aimaient bien un peu ce vocabulaire-là. Aujourd'hui, ça serait un peu le côté New Age, peut-être. Pierre, c'est intéressant, il fait exprès de reprendre un peu le vocabulaire, mais pour réorienter la conception de la foi qu'ont les chrétiens. Devenir participant de la nature divine, ça veut simplement dire que Dieu va former son caractère en nous. Il va former son caractère en nous, en le connaissant et en s'accrochant à ses promesses. Par sa puissance divine, la puissance de sa grâce, il va former, modeler Jésus-Christ en nous. Si ça, ce n'est pas un miracle. Former Christ en nous pour nous permettre de résister à la tentation, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pierre précise donc ici qu'il faut fuir la corruption. La Bible est claire que le jour où on ne péchera plus sera au ciel, d'accord? La corruption, le péché, lui, n'existera plus au ciel, mais il existe encore aujourd'hui. On est tellement tiraillé par lui. Toute notre vie, il nous fera la fuir. Il nous fera venir à la source pour puiser les forces dans sa divine puissance en comptant sur lui qu'on le connaît et sur ses promesses pour fuir cela. Alors, aujourd'hui, Dieu nous invite à rechercher, de puiser dans la puissance de la grâce pour connaître Dieu et ses promesses, afin de fuir le péché et rechercher une vie de sainteté qui lui plaise entièrement. Par notre union avec Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, il nous a donné tout ce qu'il faut pour ce plan magnifique. Tout ce qu'il faut parce que sa grâce est suffisante. Vous le croyez ? Sa grâce est suffisante. À la croix, il a tout pourvu, sa grâce est suffisante. Merveilleux, n'est-ce pas? Certains chrétiens de l'époque de Pierre, ils disaient, On va réfléchir si sa grâce est suffisante. Ça veut dire que on peut vivre une vie de péché. Si sa grâce est suffisante, on peut faire ce qu'on veut. Je n'ai plus rien à faire. Je peux vivre une vie désordonnée. Je peux aimer l'argent. Sa grâce est suffisante. Nous avons la vraie liberté. Deuxièmement, sa grâce est suffisante. On va voir ce que Pierre dit. Il continue en disant « Nos efforts sont nécessaires ». Attention, il ne dit pas en quelque sorte « Sa grâce est suffisante, mais nos efforts sont nécessaires ». Sa grâce est suffisante, donc nos efforts sont nécessaires. À cause de cela même, à cause de tout ce qu'on vient de voir, à cause de sa grâce suffisante, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance. Et on reviendra sur cette liste-là de qualités. À cause de la provision de la grâce de Dieu, on est appelé à rechercher la croissance en maturité spirituelle. Nous sommes appelés à suivre en quelque sorte le plan de formation continue pour la vie du disciple tout au long de notre vie. La formation normale d'un disciple, pas juste réservée pour certaines élites. Et on retrouve ce terme « effort » d'ailleurs à plusieurs reprises dans cet épître de Pierre. Il le dira même, il terminera quasiment sur cela en disant « C'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente du retour de Jésus, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Ma véritable réponse à la grâce de Dieu se voit dans mes efforts ?» Oui ? Oui ? Aïe ! On n'aime pas trop l'effort, c'est pas pour vous. Recherchez justement sur les moteurs de recherche. Comment développer ses compétences sans. Il y a toujours le mot sans. Comment maigrir sans. Sans sport, sans se priver. C'est véridique, j'ai cherché. Sans effort, sans régime. Comment gagner plus sans travailler. Ah oui. Comment réussir ses études sans rien faire, sans étudier. Wow. Mauvaise nouvelle si vous pensiez que la vie de disciple était une croisière où tout se passe bien. Et où l'on ne fait aucun effort, car pour grandir en maturité spirituelle, nos efforts sont nécessaires. Soyons clairs avant d'aller plus loin. Ce n'est pas Dieu qui répond à mes efforts en m'offrant sa grâce. On vient de le voir. C'est moi qui suis appelé à répondre à sa grâce suffisante, en faisant tous mes efforts pour vivre une vie attachée à lui, en comptant sur sa puissance. Pierre détaille ses efforts attendus du chrétien. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu, la connaissance, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle et amour. En comptant sur sa grâce, on est appelé à ajouter à la foi qui nous est offerte comme un cadeau, il le dit au verset 1 d'ailleurs, ces différentes qualités qui finalement sont les qualités mêmes qui représentent la vertu de Jésus-Christ, son caractère même, son excellence morale. Joindre à la fois la vertu, c'est la qualité morale, l'intégrité. Donc le même terme utilisé pour présenter la personne de Jésus. Oui, on est appelé à joindre à la foi, de rechercher, en puisant dans sa grâce et faire tous nos efforts pour ressembler à Jésus. C'est lui le modèle de vertu et de qualité morale. C'est pas le monde qui nous entoure. C'est même pas forcément un chrétien super que vous voyez à côté de vous. Même s'il peut déjà vous pointer un peu vers la ressemblance de Jésus, mais ultimement, c'est Jésus-Christ qui est vraiment notre modèle de vie. La connaissance, connaître Dieu personnellement et savoir quel est son plan pour ma vie, ça se passe aussi dans la lecture de sa parole qui nous est révélée. La maîtrise de soi, face aux tentations du monde, de ne pas s'asseoir et juste dire « c'est bon, le ciel va venir, sa grâce suffit ». Mais de puiser dans sa grâce, en particulier, il le cite, l'amour de l'argent, la sexualité, l'orgueil de la religion. Et de puiser dans sa grâce pour faire tous nos efforts, pour combattre cela dans nos vies. La patience, ici, veut dire l'endurance dans l'épreuve, parce que les chrétiens, à l'époque de Pierre, étaient face à des épreuves énormes. Pensez-y bien, si Pierre dit « Je sais que je vais bientôt quitter ce corps comme le Seigneur Jésus me l'a fait dire », est-ce que c'était peut-être pas que les persécutions venaient grandissantes, montaient en puissance ? Et qu'il sentait que le moment était presque venu alors qu'il était à Rome pour la fin de sa vie. La patience dans l'épreuve. On peut puiser dans sa grâce pour faire tous nos efforts dans l'épreuve, pour garder la tête levée vers Christ et continuer à avancer. Quelle belle louange quand nous traversons des moments d'épreuve de pouvoir puiser dans sa grâce pour le suivre lui. La piété, c'est rester attaché à Dieu dans tous les domaines de ma vie. Tous. Pas parce qu'on nous dit qu'il faut le faire, mais parce que sa grâce suffisante m'appelle, me pousse à rechercher cela. L'amitié fraternelle, l'amour des frères et sœurs dans l'Église. L'amour, finalement, la couronne un peu qui vient ici sur toutes ces qualités. Vous vous rappelez, dans Colossiens, on l'avait, hein, par-dessous tout, rechercher l'amour qui est le lien de la perfection. L'expression générale de l'amour dont l'Esprit Saint nous anime pour pouvoir servir Dieu et servir les autres, en plaçant les autres en premier. Quel est le résultat d'un disciple qui puise dans la grâce de Dieu toutes ses forces pour faire tous ses efforts à développer ses qualités, ces qualités qui sont en eux, en dire. Regardez le verset 8, car si ces choses, si ces qualités-là sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de Dieu ne restera pas quelque chose de simplement intellectuel. Elle va venir porter du fruit dans nos vies et elle va vraiment nous transformer dans nos pensées, dans nos actions, dans nos relations, dans tous les domaines de nos vies. Comme cette publicité autrefois, pour ceux qui s'en souviennent, d'un yaourt actif à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. La puissance de sa grâce active à l'intérieur de nos cœurs se voit et se manifeste à l'extérieur. La connaissance de Dieu porte du fruit, car connaître Dieu nous change profondément, mais ne nous dispense pas de faire les efforts nécessaires. Au verset 9, il continue en nous mettant en garde. Celui qui a ces choses, en qui ces qualités-là qu'on vient de citer ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses propres péchés. Quelqu'un qui verrait la foi comme quelque chose qui ne change pas la vie. On l'entend tellement souvent. Moi, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Il ne voit pas loin, il est aveugle. Littéralement, Pierre est en train de dire, il est aveuglé par sa myopie. Spirituellement, il ne voit pas, en fait. Il dit, je suis libre. Il dit, c'est bon, on ne te prend pas la tête. Mais en fait, il ne voit pas. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié que Christ, par sa gloire et sa vertu, nous a appelés à le connaître, nous a purifiés de nos péchés. C'est ce qui s'est passé à la croix. T'en souviens-tu encore? Ces chrétiens-là voulaient vivre peut-être aller l'éternité avec Dieu si jamais ils revenaient, sait-on jamais? Mais ils voulaient vivre leur vie loin de lui. Et ce ne serait pas un peu incohérent? Imaginez avec moi, un instant, une personne qui veut se marier, mais qui dit à son futur conjoint, conjointe, « Je veux me marier, mais je ne veux pas vivre sous le même toit que toi. Je veux aller voir toutes les femmes que je veux, mais toi, tu restes dispo, si je me sens un peu mal, je t'appellerai, seul. Ah oui, à Noël !» À Noël et pour les grandes occasions, les mariages et autres, tu m'accompagneras pour que tout le monde nous voit ensemble. Ce serait absurde, égoïste et incohérent, vous êtes d'accord? Ce serait absurde. Pourquoi vouloir se marier si ce n'est pas pouvoir la connaître? Et pourtant, c'est comme cela que certaines personnes considèrent Dieu. Je veux être sauvé, mais je ne veux pas te connaître. Je ne veux pas vivre avec toi, je ne veux pas que tu sois sous mon toit. Que tu connaisses ma vie, je ne veux pas suivre tes exigences de disciple. Mais reste avec moi, dispo, au cas où. Je passe par une phase difficile, là je t'appellerai. Et à Noël, grandes occasions, on fera comme si on est tout le temps ensemble. On connaîtrait le comportement d'un chrétien, mon comportement, les paroles d'un chrétien. Ce serait absurde et incohérent. En gros, ce serait dire que l'Évangile nous donnerait la possibilité de vivre une vie loin de Dieu. Mais c'est un non-sens, car l'Évangile nous permet justement de le connaître. Comment voudrait-on sincèrement connaître Dieu pour l'éternité sans vouloir passer une vie attachée à lui aujourd'hui? Je vous pose la question. Je me pose la question. Dans les domaines où j'ai du mal à être attaché à Dieu, comment se fait-il qu'on vive l'éternité avec lui, mais aujourd'hui, je ne veux pas vivre sous sa seigneurie qui est bonne et bienfaisante? Ce serait mal comprendre de quoi l'Évangile nous libère vraiment. Ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. L'Évangile, vous savez, ne nous libère pas juste d'une punition de nos fautes ou c'est pas un simple joker pour éviter l'enfer. L'Évangile nous purifie, nous pardonne pour nous restaurer dans une relation avec Dieu dès aujourd'hui pour toujours. Certains, malheureusement, ont oublié cela. Bien sûr, le disciple parfait n'existera qu'au ciel. Mais le disciple aujourd'hui qui suit Jésus voudra puiser dans sa grâce suffisante, même lorsqu'il tombe, et faire ses efforts parce qu'il comprend qu'un disciple est toujours en cours de transformation. Avec le casque de chantier à côté sur la tête, on est encore en travaux. Sa grâce est suffisante, nos efforts sont nécessaires, et très rapidement, le dernier verset, le royaume éternel nous attend. Ce sont trois vérités, rappelez-vous, fondamentales à ne pas oublier pour grandir en maturité spirituelle. N'oublions pas non plus que le royaume éternel nous attend. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Pierre veut qu'on se souvienne que le royaume éternel nous attend. Les faux enseignants remettaient ça en cause. Il tarde, il reviendra peut-être pas. Combien de gens se moquent parfois quand on entend cette chanson ancienne qui disait « Jésus revient parmi les siens ». Et pourtant, c'est vraiment ce que l'on attend. Sa grâce est suffisante, nos efforts sont nécessaires, mais n'oublions pas que son royaume nous attend. Et ça change tout. Ça nous donne une juste perspective à garder dans notre vie, parce que tout ne s'arrête pas ici-bas. Pierre veut que les chrétiens comprennent que la croissance spirituelle n'est pas un point aussi qu'on peut prendre à la légère parce qu'il revient. Et il reviendra aussi pour juger la terre. Marcher dans l'attachement à Dieu est important et doit être une priorité dans nos vies de disciples. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. C'est encore la même idée de « faites tous vos efforts ». C'est cette dernière exhortation ici, comme à la fin d'un message. À affermir votre vocation et votre élection. Quand il parle de vocation, ça veut tout simplement dire, c'est pas la vocation professionnelle, c'est l'idée de l'appel de Dieu, celui qui nous a appelés, invités à le connaître, comme on a dit tout à l'heure. Et par élection, le fait que Dieu nous a choisis. Souvenez-vous peut-être Jean chapitre 15, où Jésus dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et portiez du fruit. Est-ce que ça impliquerait que nous pourrions perdre notre salut si nous ne faisions pas assez d'efforts? Non. Ça n'implique pas qu'on vive dans l'incertitude de notre salut toute notre vie. Loin de là, lisez la suite de l'épître de Pierre. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne péchera jamais? Non plus. Lisez aussi la fin de l'épître de Pierre, quand il dit « grandissez dans la grâce qui est en Jésus ». Si on doit grandir dans la grâce, c'est bien qu'on n'est pas encore parfait, qu'on pêche encore, et pourtant qu'on est sauvé. Je crois qu'ici, la Bible nous laisse face à une belle tension. D'un côté, la grâce souveraine de Dieu est suffisante. De l'autre, nous sommes pleinement responsables devant Dieu. Et je crois que cette tension-là est belle, parce qu'elle nous rassure et elle nous pousse plus loin. Elle nous rassure et elle nous avertit. Elle nous montre qu'on puise dans ses forces et pas dans les notes. Et en même temps, elle nous met en garde face à la facilité de nous laisser aller et de vivre loin de Jésus. Sinon, ce texte ne serait pas dans la parole de Dieu. Cette tension-là ne serait pas là. On n'aime pas trop cette tension, non? Parfois. Pourtant, elle est bienfaisante si on considère qu'il va revenir un jour. On ne doit pas l'oublier. Hier soir, on courait un trail avec quelques amis de l'église et Benjamin était sympa pour courir avec moi les derniers kilomètres. Et arrivé au 18e kilomètre, on montait la côte de pêche David et quand on était en bas, on voyait l'antenne. Je ne sais pas si vous voyez la grosse antenne radio au relais qu'on voit en haut et qui clignote le soir. Et puis quand on arrive en haut, il me dit « Regarde l'antenne, elle est là, on est proche. » C'était tellement bon de pouvoir avoir cet encouragement-là. Levons les yeux. Le royaume éternel vous attend. Ça nous rassure et en même temps, ça nous met en garde pour ne pas baisser notre vigilance et continuer dans l'effort parce qu'on sait que le royaume arrive. Trois vérités à ne pas oublier pour grandir en maturité spirituelle. Sa grâce est suffisante. Donc, nos efforts sont nécessaires. Et n'oublions pas que le royaume éternel n'est pas une farce. Il nous attend. Terminons avec quelques applications très très concrètes, d'accord? Pour notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que je fais de toute cette information-là? On a plein d'informations de nos jours. Ici, on sait qu'elle est sûre et certaine dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que l'on va faire avec pour nos vies? Laissez-moi simplement vous suggérer quelques pistes. Peut-être une d'entre elles vous parlera et vous pourrez la retenir. Premièrement, sa grâce est suffisante. Est-ce que tu connais Jésus? Ce Jésus qui te sauve par son effort à lui sur la croix. C'est l'opportunité, c'est toujours l'opportunité. Mais aujourd'hui en particulier, c'est l'opportunité de dire « Seigneur Jésus, peut-être j'ai cru qu'il fallait faire des efforts pour qu'enfin je puisse m'approcher de lui, il fallait que je mette ma vie en règle pour qu'enfin je puisse venir devant toi et que tu m'acceptes. » Non. Il veut nous accepter tel que nous sommes. C'est lui qui vous appelle. C'est lui qui vous invite. Viens à lui et parle-en avec quelqu'un. Sur sa grâce souveraine, peut-être, vous êtes aussi appelé en tant que chrétien à nous souvenir aujourd'hui qu'on doit puiser dans les promesses de Dieu pour voir, pour le connaître mieux et voir notre vie changer. Est-ce que peut-être parfois certaines promesses qu'on a dans l'évangile de son retour, du fait qu'il peut vraiment changer nos vies, le fait qu'il est vraiment présent avec moi dans l'épreuve, on les a oubliés ou remis en cause, on a l'impression qu'il tarde dans cet accomplissement-là de ses promesses. C'est l'opportunité ce matin pour dire « Seigneur, pardon d'oublier cela et merci parce que tu me le rappelles. » Nos efforts sont nécessaires. Est-ce que dans ma vie actuellement, je cours à ce rythme-là, je continue de fournir cet effort ou est-ce que j'ai relâché parce que soit je comptais sur mes propres forces ou soit j'avais oublié que mes efforts étaient nécessaires. C'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir continuer, peut-être dans un domaine de votre vie. Vous avez mis beaucoup d'efforts au travail, dans la famille, c'est très bien. Mais est-ce qu'on prend conscience que les efforts pour suivre et être transformés à l'image de Dieu devraient être aussi notre priorité? Quand vous voyez cette liste, la vertu, est-ce que Jésus est votre modèle? La connaissance, peut-être c'est le moment de commencer à lire la Bible régulièrement. Que ce soit en lisant ou une Bible audio, lire un livre qui vous encourage, faire partie d'un groupe de croissance ou de prière avec quelqu'un pour grandir en connaissance de Dieu. La maîtrise de soi, peut-être trouver quelqu'un avec qui partager ses tentations. Je m'énerve au volant, je m'énerve face à ma famille, j'ai cette tentation face à la pornographie, j'ai l'amour de l'argent qui m'empêche d'être généreux, je ne sais pas. Mais si vous avez quelqu'un avec qui le partager, peut-être vous pourrez grandir en maîtrise de vous-même et c'est peut-être cette première étape de l'effort à faire d'en parler avec quelqu'un. La patience, peut-être dans l'épreuve, aujourd'hui, tout simplement dire dans votre douleur à Dieu, « Seigneur, donne-moi la force de compter sur tes promesses, rends tes promesses à nouveau sur mon cœur. » La piété, peut-être, comment je puis développer ma vie de prière? L'amitié fraternelle, y a-t-il des relations dans l'Église avec un frère ou une sœur en Christ que je puisse développer davantage? Peut-être le jour du dimanche de l'hospitalité et l'amour pour couronner cela. Est-ce que je puise dans la grâce pour faire mes efforts, pour vraiment servir les autres? Ou est-ce que je me sers moi, je me sers ma famille, mon temps est à moi, mon argent est à moi? Ou est-ce que, en retour, je veux vraiment le donner à Dieu? Et finalement, le royaume éternel nous attend. Est-ce que, comme moi, dans le trail, j'avais les yeux vers le sol parce que c'est vrai, il y avait des racines et tout? Mais est-ce qu'on est là les uns pour les autres pour nous dire « Hé, regarde, le royaume éternel nous attend. Le royaume éternel nous attend. » Je propose de terminer dans la prière. Je sais que c'est beaucoup d'applications, mais vous pouvez relire le texte chez vous et y repenser. Et pendant ce temps, l'équipe de louanges va venir et nous conduire aussi dans un temps de consécration où nous allons chanter que Jésus-Christ nous suffit pleinement. Trois vérités à ne pas oublier, sa grâce est suffisante. Nos efforts sont nécessaires. Le royaume éternel nous attend. Seigneur, ce matin, on veut te dire merci. Merci parce que ta parole est la source d'informations sûres qui vient nous montrer comment grandir dans nos vies de disciples. Seigneur, face à l'immensité de la tâche, on ne peut que venir devant toi et te dire pardon. Quand on voit ta gloire et ton excellence morale, ta perfection, Seigneur, nos cœurs se prosternent. Et Seigneur, on veut vraiment prier que ce matin, personne d'entre nous ne ressorte sans te connaître personnellement. Seigneur, que les promesses que tu donnes, cette invitation de te connaître, on puisse tous la saisir par la foi. Seigneur, on te prie aussi pour les domaines de nos vies, où tu nous aides, Seigneur, à pouvoir vivre dans cette belle tension de l'Évangile. À la fois puiser dans ta grâce suffisante, mais en même temps pour trouver les forces, pour donner l'effort nécessaire, pour grandir. Et on te prie vraiment qu'on continue de grandir en Église ensemble, comme des disciples qui veulent te suivre et aider d'autres à te suivre. Seigneur, fais-nous cette grâce. Rappelle-nous tes promesses. Seigneur, rappelle-nous aussi, quand on l'oublie, que ton royaume éternel nous attend, cette promesse est sûre. Et sur cette promesse qu'on veut baser notre vie. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné une parole pour nos cœurs et on te prie qu'elle porte du fruit à ta gloire. Seigneur, on veut déclarer ensemble, Christ seul, tu nous suffis. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Amen.